Radio Grand Ciel présente Ivan Illich, l'école cathédrale. Une série de 10 émissions pour mieux connaître la pensée d'Ivan Illich et son analyse de l'œuvre de Hugues de Saint-Victor. Au micro, Christiane Blain.
Sachez que Ivan Illich est connu notamment pour sa critique radicale de la gestion de la santé. Il est l'inventeur du concept de maladie iatrogène, la némésis médicale et de l'école. Il publiera « Une société sans école ».
Aujourd'hui, nous abordons l'épisode 7 qui va aborder la méditation par Hugues de Saint-Victor. Serge Adam, bonjour.
Bonjour Christiane Blain.
Alors, j'aimerais bien que vous nous expliquiez ce qui a conduit Ivan Illich à s'intéresser au thème de la méditation, qui est un thème présent dans le Didascalicum.
Eh bien, la réponse se trouve bien après son commentaire du Didascalicum paru en 1991. Elle se trouve dans la préface du dernier ouvrage d'Ivan Illich, rassemblant ses inédits, qui sera publié chez Fayard en 2004 et intitulé « La perte des sens ». Notre auteur dit qu'il plaide pour une renaissance des pratiques ascétiques. L'art de lire méditatif d'Hugues de Saint-Victor, dans le Didascalicum, correspond à une pratique de lecture suivie de méditation, qui est la pratique ascétique. Restaurer une telle pratique ascétique de lecture méditative des Écritures est un objectif qui éclaire l'intention de l'œuvre d'Illich d'une lumière plus définitive. On le sait, prêtre, formateur interculturel de missionnaires, et il devient très pointu comme historien médiéviste pour commenter l'Ars Legendi, l'art de lire de Hugues de Saint-Victor, et approfondir en éthologue un art de lire les Écritures antérieur à la naissance de la théologie thomiste. Contrairement à ceux qui pensent que son enseignement d'historien médiéviste ne concerne que la deuxième partie de son œuvre, je crois qu'il faut plutôt souligner la cohérence de l'œuvre. Il n'y a pas une première partie écrite comme sociologue critique du système de la modernité et une deuxième partie nostalgique qui se tournerait vers le passé médiéval. Ce serait ne prendre en considération que le champ des sciences, la science sociologique et la science historique, l'éthologie historique, ne s'enferme pas dans cette étroitesse de focale qui ne retiendrait que les sciences, et pire, qui considérerait qu'un chercheur ne peut les utiliser qu'une par une. Non, Illich est multidisciplinaire. Prêtre par vocation, expert de nombreuses sciences sociales, il est aussi historien de formation. Il a écrit deux thèses. Une première thèse sur Arnold Toynbee, historien des civilisations convaincues du rôle transhistorique des grandes sagesses comme le christianisme, et une deuxième thèse sur Albert le Grand, spécialiste d'Aristote et dont saint Thomas d'Aquin a été l'élève. Et dans une sorte de dialogue avec les historiens, Illich brille avec une orientation d'éthologie historique. À l'opposé de la philosophie et de la théologie qui s'appuient sur la fonction intellectuelle, uniquement, l'éthologie redécouvre la voie des cinq sens, de la perception comme accès à la connaissance. La voie des sens permet de nous réimprégner des contextes mentaux antérieurs, comme celui du début du XIIe siècle notamment. Comme il y a eu, et c'est le titre de son livre, « Perte des sens », il faut en reconquérir l'usage. Finalement, Illich rejoint le thème central d'Hugues de Saint-Victor, qui est la restauration en tant qu'homme non oublieux de son parcours, grâce à ses étapes migratoires dans le retour vers notre origine.
Alors, moi je me demande comment on peut commencer cette restauration des sens.
Oui, la restauration des sens débute par la posture de l'activité méditative. Ceux qui font de la méditation le savent bien, il faut se sentir les pieds bien à plat, les jambes en équerre, le dos contre le dossier de la chaise. Cathèdre, c'est le mot qui a donné l'origine de la chaise de méditation et de la cathédrale. La respiration est importante aussi. Entrant par les narines, on ressent sa respiration, on la sent emplir nos poumons, on écoute la lecture. La méditation commence en pleine conscience de ses sensations. Un exercice très simple permet de développer l'importance accordée au sens. En plaçant au milieu d'un groupe une corbeille avec des pommes, de toutes les couleurs et en demandant aux participants de les contempler et d'en choisir une pour sa forme, sa couleur, puis de sentir son parfum, puis d'en croquer un morceau, d'en écouter le bruit, d'en ressentir la saveur, puis de suivre la dégustation, la déglutition, puis de se souvenir de ce que cette pomme peut évoquer comme souvenir, comme symbole. Pour Hugues de Saint-Victor, l'âme a trois puissances qui fonctionnent en deux cercles. Tout commence par les sens, dans un premier cercle où les sensations, la perception, conduisent aux représentations. Et dans un deuxième cercle, notre intelligence transforme ces représentations en interprétations. Appliqué à la lecture de la page partition du parchemin, on perçoit d'abord les sons qui restituent la parole qu'il faut d'abord écouter avant de la méditer. Le premier temps consiste à faire silence, puis à écouter. C'est l'ouïe qui restitue phonologiquement la parole enregistrée par l'écriture qui, elle, est vue et lue. Le son reçu par l'écoute aboutit à créer la représentation, la présence à nouveau, la représentation. Dans ce deuxième temps, la lecture et les représentations qu'elle a fournies sont méditées par la réflexion. Ce ne sont pas les mots qui sont analysés, mais la signification de la parole. Je me plais à imaginer que le fonctionnement en deux cercles fonctionnels, décrit par Hugues, donne une possible explication que Jésus donnait à ses disciples proches quand il disait « À eux, je parle en parabole, et à vous, je donne des explications de ces paraboles ». La parole peut proposer des représentations métaphoriques qu'il faut ensuite transposer en interprétation. L'œuvre d'Illich est donc cohérente. Elle contient cette cohérence qui détrône le primat de la rationalisation qui cherche trop vite une théorie accommodant la signification immédiatement, pour laisser s'effectuer une pénétration d'abord par la perception reconquise dans sa plénitude. L'éthologie historique redécouvre d'abord les façons de sentir plutôt que les strates de théorisation de l'histoire culturelle. Comme une pièce de monnaie, il y a deux faces, une déconstruction du réflexe d'intellectualisation inculqué par notre alphabétisation par la sphère éducative et la réhabilitation de l'école cathédrale et son art de lire méditatif. Sur la face exprimée la première, Illich souhaite la déscolarisation de la société. Entendons la déscolarisation de notre mentalité intoxiquée par l'hégémonique modèle universitaire. C'est son livre « Une société sans école ». Et de l'autre face, Illich entend retransmettre la connaissance et le goût d'une technique de méditation associée à l'art de lire méditatif. Et c'est le commentaire du Didascalicum. La personnalité est restaurée dans sa plénitude par la possibilité de réaccéder à son patrimoine de souvenirs gustatifs, visuels, auditifs, olfactifs, aussi bien qu'aux représentations symboliques retenues par elle et de toute cette sagesse transhistorique. De face encore en matière de soins, la critique des effets contre-productifs de la médicalisation du corps et la réhabilitation de techniques ontologiquement réparatrices comme la lecture ascétique. D'une face, Illich sait énoncer la distinction médicale du corporel et du psychique et son symptôme qui est l'apparition d'emprunts du langage par la société et la culture. Dans Némésis médical, il diagnostique une iatrogénèse non seulement clinique comme les bacilles résistants provoquant les maladies nosocomiales qu'on attrape parfois dans les hôpitaux et les aspects de la iatrogénèse sociale et culturelle. Or, les médecins veulent effectivement maintenant faire de la méditation un outil thérapeutique. Et de l'autre face, il délivre une étude éthologique du corps, une éthologie historique du regard, dans sa définition originelle, naturelle, voire biblique. La réappropriation éthologique vise la guérison ou prévention du risque iatrogénique de mutilation culturelle et spirituelle. La puissance de toutes les sphères institutionnelles séculières se développe sur la base de professions dominantes formées à l'université. Illich dépasse la critique du grand philosophe allemand Emmanuel Kant, pour lequel la raison critique de la philosophie devait tenir dans leurs limites les grandes facultés universitaires que sont les facultés de théologie, de droit, de médecine. Par la perspective éthologique, Illich nous replace avant l'hégémonie universitaire dans la pratique de la méditation réflexive. De toute façon, la raison critique kantienne ne faisait qu'ajouter à l'hégémonie rationaliste des sciences, dont l'apogée a été le positivisme, envahissant la sphère éducative, devenant un monopole, éradiquant les autres sources du savoir. Le mode d'assimilation de la sagesse du Christ passe par la lecture ascétique des Écritures, qui ont enregistré la parole, suivie de sa méditation, selon la façon transmise par les chanoines, suivant la règle de saint Augustin. Cet ordre, recréé en 1953, vient d'être encouragé par le pape François à continuer la méditation des Écritures. Au final, il faut que cette pratique de méditation soit retrouvée par ceux que cela peut intéresser. Cela peut être l'objet de négociations dans le cadre de la synodalité demandée à l'Église. Ce n'est pas à la sphère médicale d'étiqueter sous l'appellation de méditation de pleine conscience une activation profonde, commençant par la fonction de sensation, quand il suffisait de traduire du latin la méditation chrétienne de saint Victor. Illich sait bien que la théologie lancée à partir de la somme théologique de Thomas d'Aquin deviendra universitaire, avec une forte pénétration des ordres franciscains et dominicains dans l'université. La théologie a abouti à la séparation du savoir et de la spiritualité. Comme on le verra, le rite de lecture ascétique redimensionne la capacité des fidèles, au-delà d'une seule préparation, à mieux participer au rite de lecture liturgique qui débouche sur l'homélie en tant que prestation d'un prêtre spécialement formé à la rhétorique et à la théologie. L'éthologie historique dépasse l'histoire culturelle des ordres religieux, qui ne sont que des contenants pour pénétrer dans le contenu par une véritable migration vers l'étape duc de Saint-Victor. Illich vise à nous faire éviter l'obstacle épistémologique, au vrai sens du terme, qu'aurait constitué l'arrêt sur la théologie d'origine scolastique et thomiste. Comme dans la migration des oiseaux migrateurs, ceux-ci peuvent rencontrer un obstacle, une chaîne de montagne par exemple, qui les empêche ou les détourne d'atteindre le pays d'origine. La migration vers la pratique ascétique ne doit pas être empêchée par l'obstacle épistémologique que constitue la science théologique. Hugues énumère les différentes formes que prend la méditation, selon qu'elles portent sur les créatures, sur les Écritures et sur les mœurs. Et je vous ai donc proposé, Christian Blain, de l'adopter comme plan pour poursuivre notre série d'émissions sur Illich et l'école cathédrale.
Alors, me permettez-vous, Serge Adam, encore une question préalable sur le lien entre notre émission précédente, étudiant Illich comme historien médiéviste, et celle d'aujourd'hui sur la méditation.
Dans son commentaire érudit du Didascalicum de Hugues de Saint-Victor, Illich fait effectivement preuve des talents d'un historien médiéviste. Et il se singularise plus particulièrement par cette option d'éthologie historique qui marque son intention de restauration capacitaire de l'ascèse. Pour enrichir notre étude, nous disposions du regard d'un autre historien médiéviste, le professeur Sylvain Piron, de l'École des hautes études en sciences sociales, qui connaît bien l'œuvre d'Ivan Illich, auquel il a consacré un chapitre dans L'Occupation du Monde, son dernier livre. Sylvain Piron avait accepté de rendre hommage à Illich, né en 1926 et mort en 2002, dans le cadre de la cérémonie commémorative organisée pour le 20e anniversaire de sa disparition, donc à la Toussaint 2022, par Anne Illich Ide, dans la demeure familiale des Illich au château de Mémillon, en Eure-et-Loire. Dans l'option d'histoire intellectuelle et culturelle que privilégie Sylvain Piron, il est important de mettre en relief les moments charnières du découpage fait par les historiens. La nouvelle histoire du Moyen-Âge, pour reprendre l'expression de Florian Mazel, situe le seuil de la modernité au milieu du XIIe siècle. De l'Antiquité dite tardive n'est transmise que le platonisme et le néoplatonisme, et ce n'est qu'après ce seuil qu'est remarqué le changement dû à la redécouverte d'Aristote, sa dialectique, sa métaphysique, sa philosophie des causalités.
Eh bien, si vous le voulez, nous allons marquer une pause musicale. Thank you.
Did you see the tears roll down the street? The sky is crying. Can't you see the tears roll down the street? Well, I've been looking for my baby, and I wonder what can she be.
Je suis toujours avec Serge Adam et nous évoquons la méditation chez Hugues de Saint-Victor. Alors, j'aimerais bien que vous nous rappeliez les éléments constitutifs de la méditation selon Hugues de Saint-Victor et transmise par Ivan Illich.
Très bien, Christiane Blin. La méditation chez Hugues de Saint-Victor embrasse des sujets très vastes comme les créatures du ciel et de la terre, et les écritures saintes, bien sûr, et les mœurs. La dernière lentille, l'éthologie, donc dans l'appareil épistémologique d'Illich, permet de se réimprégner des visions du monde. Et donc, ça peut se faire pour d'autres ethnies, sur d'autres espèces animales ou sur d'autres époques. L'un de ses fondateurs, Uexküll, a apporté ce concept de vision du monde, la Weltanschauung. On peut faire remarquer que l'éthologie caractérise des penseurs interdisciplinaires, voulant échapper aux réductionnistes des spécialistes universitaires. L'éthologie offre une focale beaucoup plus grande et se rencontre chez Illich, chez René Girard, chez Michel Serres ou encore chez Vinciane Desprez. Hugues veut restaurer l'homme non oublieux de son origine. Le modèle en est donné par Jésus lui-même, qui exprime la vision du monde comme fils d'un Père céleste. Il l'apprend à travers le rite de prière à ses disciples. Cette vision s'assimile à travers les trois thèmes de méditation proposés par Hugues sur les créatures, les écritures et les mœurs. La migration retour vers l'imprégnation de cette vision du monde redécouvre des procédés rituels de prière et de lecture, la lecture méditative. Illich met en relief le temps que nous consacrons aux activités non rémunérées du travail fantôme pour situer ou dégager le temps nécessaire à cette pratique personnelle du rite de lecture méditative. Les églises, aussi bien l'église catholique au-delà du XIIIe siècle que les églises protestantes d'après la Réforme, n'ont guère été favorables à la pratique méditative personnelle. Il suffit de voir comment elles considèrent péjorativement, et souvent avec amalgame, les formes de méditation du piétisme, du mysticisme, le spiritualisme, le jansénisme, le fidéisme. C'est un plaidoyer en faveur des pratiques ascétiques que fait Illich dans le contexte de cette civilisation occidentale. Pour cela, la traduction du latin en anglais, en français, des livres de Hugues de Saint-Victor et le commentaire qu'en fait Illich sont bien de nature à aider la réhabilitation de cette pratique personnelle sans la réserver au sacrement d'ordination. Il faut se souvenir de l'origine étymologique donc de cathédrale, qui est la cathèdre, la chaise de méditation. Là sans doute réside la motivation d'Ivan Illich à exhumer l'enseignement de l'école cathédrale.
Alors maintenant, j'aimerais que l'on voit comment se constitue la tradition méditative de Hugues de Saint-Victor.
Ah oui, l'écolâtre Hugues de l'école cathédrale de Paris au XIIe siècle est influencé par Jean Cassien. Et il faut se souvenir que ce moine Jean Cassien vivait au IVe siècle, a fondé justement l'abbaye Saint-Victor de Marseille. Cet édifice, qui est en partie creusé dans le roc, a servi de crypte où Saint-Victor mourut en 433. On peut citer quelques livres de Jean Cassien, les huit vices capitaux, les institutions cénobitiques. Donc il y a un traité de Jean Cassien sur la méditation. L'abbaye Saint-Victor de Paris porte le nom même de Saint-Victor parce qu'elle a récupéré les reliques. Je peux conseiller le livre de Jean-Claude Noailles, Ils ont choisi la solitude, chez Taillandier en 2022, très complet et qui permet de trouver les œuvres d'auteurs et les lieux d'apprentissage des pratiques méditatives chrétiennes pour les personnes que cela intéresse. Je peux témoigner aussi que l'on peut s'initier à la Lectio Divina en faisant des retraites dans la communauté de Thésée. Thésée, son église œcuménique de la Réconciliation, est située en Saône-et-Loire, près de Cluny. Fondée par frère Roger après la guerre, où ce saint homme avait été outré par le conflit entre peuples chrétiens de tradition catholique et protestante. Thésée diffuse les rééditions des œuvres des premiers penseurs chrétiens, en collaboration avec les éditions Brespol. Les livres des moines de Thésée offrent des recherches de synthèse spirituelle très actuelles. Cette communauté offre à des laïcs ou à des religieux la possibilité de retraite de 5 jours, pour s'adonner vraiment à l'apprentissage de la Lectio Divina, accompagné de moines très compétents. La communauté de méditation mondiale chrétienne, une autre institution, a mis en ligne sur le web une série de documents pédagogiques sur la méditation chrétienne, où il est souvent question d'Évagre le Pontife, qui était le maître de Jean Cassien. Donc le Jean Cassien dont on a vu qu'il a fondé l'abbaye de Saint-Victor de Marseille. Côté pratique, on peut regretter toutefois que la communauté mondiale de méditation chrétienne ait une prédilection pour la pratique silencieuse à base de répétition d'une formule de mantra qui est plus proche en fait de l'isicaste orthodoxe, mais qui pousse ensuite peut-être trop vers une synthèse interreligieuse de fusion de la méditation chrétienne avec la pratique méditative du zen d'origine bouddhiste. La communauté mondiale de méditation a été fondée par des jésuites américains, John Mayne, aujourd'hui décédé, et Lawrence Freeman. Le prêtre catholique Ivan Illich aimait rappeler, lui, que Jésus lui-même conseillait de se retirer dans une chambre de sa maison pour méditer. À cet égard, le commentaire du Didascalicum par Illich a été diffusé en même temps que la traduction du Didascalicum par Michel Lemoine. Et c'est une aubaine pour redécouvrir la technique de mémorisation de l'arche mentale qui favorise l'orientation de la méditation à travers les niveaux de l'exégèse vers l'ascèse.
Alors je pourrais vous demander comment est définie la méditation par Hugues de Saint-Victor.
Alors Hugues de Saint-Victor, dans l'art de lire du Didascalicum, définit dans sa première partie, donc au livre 3, chapitre 10, la méditation en disant « La méditation est une pensée accompagnée de réflexion. La méditation recherche avec prudence le mode, la cause et l'utilité de chaque chose. » En deuxième partie du Didascalicum, on trouve au chapitre 13 un renvoi du sujet de la méditation, jugé trop important par Hugues, à un traité particulier qu'il a effectivement écrit et qui est l'opuscule sur la méditation. Hugues de Saint-Victor considère la méditation comme la suite normale de la lecture. Le point de départ, l'enseignement, réside dans la lecture. L'accomplissement de l'enseignement, lu, se fait par la méditation. Hugues poursuit en disant « La méditation isole l'âme du vacarme des activités terrestres. La méditation permet dès cette vie d'avoir un avant-goût de la douceur du repos éternel. » Si la méditation devient une habitude, le lecteur, assis à sa table, comprend que sa position de méditation assise rappelle la cathèdre, chaise à haut dossier, où l'on est assis comme les chanoines dans une position propice à la lecture et à la méditation. La cathèdre, chaise de méditation, encore une fois, a la même origine étymologique que cathédrale.
Alors, je me pose la question, comment la psychologie a-t-elle restitué la pratique méditative de l'école cathédrale ?
Pour répondre à cette question, j'aurai recours à l'analyse des différentes formes de méditation faites par le psychiatre Roberto Assagioli, qui utilise toutes les formes de méditation dans le cadre de la psychosynthèse. L'approche psychologique part du repérage de la fonction psychique qui prédomine dans telle ou telle forme de méditation. Dans le modèle d'Assagioli, qui prend la forme d'une étoile à 6 branches, les fonctions sont au nombre de 6, et il a développé presque autant de formes de méditation. La fonction d'imagination sert à la méditation créatrice. La fonction de l'intuition sert à la méditation contemplative. La fonction de la pensée sert à la méditation réflexive. C'est là que se situe celle de Hugues de Saint-Victor. La fonction de la sensation, la vue, l'odorat, l'ouïe, le goût, le toucher, est à la base de la méditation sensorielle, aujourd'hui divulguée sous l'appellation de méditation de pleine conscience. La fonction des pulsions est utilisée dans le yoga tantrique et dans la technique de transmutation et de sublimation des pulsions sexuelles. La fonction de l'émotion peut conduire à méditer sur la souffrance, tristesse, colère, peur, à l'acceptation et à la substitution de la joie, une fois que la méditation aura apporté la sérénité. Outre l'étoile à 6 branches fonctionnelles avec la volonté ou attention au centre, Assad Jolie a dessiné une cartographie de la personnalité qui a la forme d'un œuf. Elle sert à situer où se localisent les exercices de rétention ou d'extension des contenus du champ de conscience dans ces zones mémorielles. L'étoile des fonctions s'inscrit dans une forme circulaire, mais elle s'allonge donc aux deux extrémités pour prendre la forme ovoïde, pour adjoindre des zones de rétention des contenus traités par les fonctions psychiques. Au sommet notamment, la forme ovoïde permet de situer comme une sorte de dôme de zone du supraconscient. C'est là que l'intuition, pour chercher la connexion avec le soi divin, et que les rêves produits de l'imagination peuvent réactiver des archétypes de l'inconscient collectif découverts par Jung. J'ose avancer que l'Arche de Noé de Hugues de Saint-Victor ferait bien de figurer parmi les archétypes de notre mémorisation supraconsciente. La définition de la méditation donnée par Hugues de Saint-Victor fait notoirement appel à la fonction de réflexion et devrait donc être classée dans l'approche fonctionnelle de Roberto Assad Jolie dans la catégorie des méditations réflexives. Le chanoine Hugues écrit en introduction de son opuscule sur la méditation « La méditation est une réflexion insistante qui explore le mode, la cause et la raison de chaque chose. Le mode, ce qu'elle est. La cause, pourquoi elle est. La raison, comment elle est. » Cette méditation réflexive d'Hugues l'applique donc dans la fonction de la pensée sur les thèmes des créatures, des écritures et enfin des mœurs qui seront justement les thèmes de nos 3 prochaines émissions. On peut considérer ce référencement par Illich de la recherche conviviale à Hugues de Saint-Victor et donc le choix de la lignée de Saint-Augustin comme le besoin de retrouver une tradition qui ne sépare pas savoir et spiritualité. D'autant qu'Illich a certainement étudié de près la naissance de cette séparation, puisqu'il a fait sa seconde thèse sur Albert le Grand, 1200-1280, dont Thomas d'Aquin, 1225-1274, a été l'élève.
Alors, pour moi, Illich a voulu s'extraire de la référence exclusive à la théologie dogmatique pour conduire à une théologie libre de repartir de la méditation directe, des créatures, des écritures et des mœurs. Eh bien, un grand merci. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.radiograndciel.fr. Merci infiniment et à bientôt pour une autre émission.
Merci, Christiane.